nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Nous passons une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Clément Moutier.
Le lundi 24 octobre 2011 avait lieu à l'Académie nationale de médecine les deuxièmes rencontres scientifiques et médicales France-Québec sur la maladie d'Alzheimer. Cette journée organisée avec la délégation générale du Québec à Paris a permis à des médecins, des professeurs, des chercheurs français et québécois de faire le point sur l'innovation et les espoirs d'application thérapeutique dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. À la suite de cette journée scientifique, Raymond Ardéyou, secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine, a signé une convention de coopération avec des universités québécoises, l'Université de Montréal et l'Université Laval de Québec. Déjà début octobre 2011, une convention franco-québécoise avait été signée entre le Premier ministre du Québec, Jean Charest, et le secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine, Raymond Ardéyou. Mais plus que jamais, les scientifiques québécois et français sont animés par cette volonté de travailler de concert. La signature de cette convention de coopération annonce donc une volonté commune du Québec et de la France d'améliorer la prise en charge des malades d'Alzheimer et de leur entourage. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons Jean-Paul Tillemant. Monsieur Tillemant, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur émérite de pharmacologie à la faculté de médecine de Créteil, à Paris 12. Membre de l'Académie de pharmacie et membre de l'Académie nationale de médecine, et vous étiez donc organisateur de cette deuxième rencontre scientifique et médicale France-Québec. Après une première rencontre qui avait eu lieu au Québec sur le thème de l'obésité infantile, aujourd'hui vous aviez décidé d'organiser donc cette rencontre autour de la maladie d'Alzheimer. Alors d'où est né ce projet de convention et de coopération entre l'Académie nationale de médecine et le Québec?
La première étape est celle de la réunion France-Québec sur la maladie d'Alzheimer. Alors pourquoi cette rencontre? Eh bien c'est parce que, comme vous le savez, il y a deux plans Alzheimer décidés par les pouvoirs publics qui ont évolué parallèlement, à Québec d'une part, en France d'autre part. L'idée a donc été de rapprocher, de partager et de comparer les résultats obtenus par les chercheurs des deux pays, essayer de faire la synthèse de leurs résultats et de mettre en commun de nouveaux axes de recherche. Autrement dit, nous avons essayé d'utiliser donc le fait que les deux plans Alzheimer ont évolué parallèlement, je crois assez efficacement, pour essayer de proposer à ses membres, à ses acteurs, ben, disons, de partager leurs talents.
Et pourquoi s'être tourné vers le Québec ?
Alors, pour de nombreuses raisons. La première, c'est que les plans Alzheimer sont relativement proches et distincts, en tout cas en Amérique du Nord, des autres plans nord-américains. Ceci pour des raisons qui sont des raisons scientifiques médicales, mais aussi des raisons culturelles. Le Québec et la France ont des systèmes de protection sociale et de prise en charge qui sont relativement proches, d'où l'idée de les comparer et de les rapprocher. La deuxième idée, c'est que nous avons eu la chance d'avoir le concours, le soutien des responsables de ces deux plans. C'est-à-dire que ces responsables ont considéré que l'idée était bonne et que par conséquent, ils sont soit venus, soit ils se sont fait représenter. Alors pour la France, le plan Alzheimer, comme vous le savez, a été décidé par le président de la République qu'il suit directement. Il a confié donc son organisation générale à Mme Lustmann. Et puis au plan scientifique, au professeur Joël Ménard, à Philippe Amouyel, qui sont tous les deux des présidents, donc des conseils scientifiques. Il se trouve que Joël Ménard défendait le plan Alzheimer à Berlin, donc il avait délégué un des membres de son conseil scientifique, qui est Michel Poncet de Marseille. Voilà pour le côté français. Pour le côté québécois, eh bien nous avions l'ancien président du plan Alzheimer du Québec, qui est Howard Berman. Le nouveau aurait dû être avec nous, c'est Rémi Quirion. Au dernier moment, il a été appelé à d'autres fonctions, mais il s'est fait remplacer. Et d'autre part, il a présenté des résultats expérimentaux de son travail. Sylvie Belleville faisait aussi partie de ce plan Alzheimer. Autrement dit, vous voyez, nous avions des responsables des deux plans simultanément. Alors, bon, Pourquoi l'Académie de médecine ? Ben d'abord parce que c'est un problème de santé publique majeur, donc c'est dans nos attributions qu'il y a eu une saisine du président de la République, pas de l'Académie de médecine, mais d'une façon un peu plus globale. Nous avions la possibilité de rassembler les spécialistes. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des académiciens de l'Académie nationale de médecine de France, aussi bien à Québec que chez nous, et c'est à partir d'eux que nous avons bâti cette réunion. Donc, Papadopoulos, qui est, on ne le dit pas, mais qui est un académicien, un correspondant étranger de notre académie, et puis Rémi Carillon ne l'est pas encore, mais le sera aussi bientôt. Donc voilà, si vous voulez, à partir d'une base qui est une base académique, on a pu construire ces journées. Alors, ce que je voudrais quand même vous dire, c'est que, bien évidemment, vous avez cité les deux organisateurs, c'est-à-dire d'une part l'Académie de médecine, d'autre part la Délégation générale du Québec, mais nous avons obtenu le concours de quelques organisations d'associations de patients, ce qui nous paraissait tout à fait important et même indispensable de connaître leur avis, et puis d'autre part quelques laboratoires pharmaceutiques qui ont bien voulu nous soutenir et nous aider dans cette réalisation.
Cette deuxième rencontre scientifique et médicale en amène d'autres. Autour de quelle régularité va s'orchestrer les différentes réunions à l'avenir, tous les deux ans ?
Écoutez, si c'est possible tous les ans, mais je pense que ce sera difficile. Les conventions sont plus souples que ça. Dans les conventions, nous avons signé trois types de protocoles. D'abord, des protocoles d'échange, échanges entre Québécois et Français, qui peuvent être des échanges d'étudiants, qui peuvent être des échanges de spécialistes. Ça peut être aussi des échanges de chercheurs et bien évidemment de praticiens hospitaliers. Donc, si vous voulez, premier aspect, premier volet, échange des deux côtés de l'Atlantique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que vous venez d'évoquer, ce sont des journées à thème. Alors, il faut choisir des thèmes, avoir des thèmes pour lesquels nous ayons des spécialistes des deux pays. Bon, je crois que les thèmes ne manquent pas. Le problème, c'est qu'il va falloir trouver le meilleur. Et puis, d'autre part, enfin, la délégation générale organise depuis très longtemps ce qu'elle appelle des regards croisés. Je pense que ça s'explique très très simplement dans la mesure où ils invitent un spécialiste français, un spécialiste québécois à parler du même sujet et à confronter leurs opinions, leurs résultats et comment ils voient l'avenir. Alors il y a eu un certain nombre de regards croisés médicaux, scientifiques et médicaux. Et il y en avait un en particulier qui était tout à fait intéressant, qui était de savoir dans quelle mesure le régime alimentaire pouvait traiter tout ou partie de l'obésité. C'est un sujet tout à fait d'actualité sur lequel aussi bien l'Université de Bordeaux que l'Université de Laval ont beaucoup travaillé, avaient des idées très, très originales.
Jean-Paul Tillemant, pour en revenir à cette rencontre scientifique France-Québec sur le thème de la maladie d'Alzheimer, vous aviez décidé d'intituler cette rencontre « Progrès scientifiques récents et perspectives médicales ». Alors, quels sont aujourd'hui, Monsieur Tillemant, les progrès scientifiques qui ont été réalisés ?
Alors, les progrès scientifiques, il y en a plusieurs. Je pense que le premier, c'est surtout un progrès dans le domaine des diagnostics. Alors, il faut comprendre pourquoi le diagnostic est important. C'est que vous savez que pendant très longtemps, le diagnostic certain de la maladie d'Alzheimer ne pouvait se faire que post-mortem, c'est-à-dire par autopsie des patients décédés. Inutile de vous dire que souvent la famille, on peut la comprendre, refusait ce genre d'études. Ça a un inconvénient, c'est que ça a freiné la recherche. Et ça montrait la nécessité d'avoir un diagnostic du vivant du patient. Diagnostic du vivant du patient en sachant qu'on accumule un certain nombre de handicaps. D'une part, la maladie est d'évolution lente, en tout cas pour les formes qui ne sont pas non génétiques au sens mendélien du terme. C'est-à-dire que l'évolution étant lente, quand les signes cliniques apparaissent, la maladie est déjà bien installée. Donc, essayez de la déterminer le plus précocement possible. Il y a d'autre part un facteur âge qui intervient et qui manifestement intervient aussi dans l'aggravation et dans l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Et puis, à l'heure actuelle, en l'absence de traitement curatif, on a quand même une possibilité de limiter, de retarder l'évolution de la maladie par un certain nombre de mesures préventives. Donc vous voyez, le diagnostic précoce, il est d'une importance capitale parce que c'est à l'heure actuelle la seule façon de retarder l'évolution.
Et est-ce qu'à court terme ou bien à long terme, les avancées sur les traitements médicamenteux sont aussi importantes ? ou bien de ce côté-là, il n'y a pas eu de perspective encourageante?
Alors, il y a beaucoup d'hypothèses, et il y a des hypothèses que je crois très très séduisantes, mais ce ne sont encore que des hypothèses. Je ne voudrais surtout pas donner l'impression qu'on a la solution du traitement de la maladie d'Alzheimer aujourd'hui. Simplement, on a des pistes de recherche qui sont des pistes intéressantes. Alors, dans les pistes qui ont été bien développées, il y a les pistes génétiques. Essayer de voir quels sont ce qu'on appelle les gènes de susceptibilité de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire ces gènes dont la mutation fait que l'apparition de la maladie d'Alzheimer va survenir. Alors, à l'heure actuelle, il y a un recensement absolument impressionnant en matière de nombre de patients, puisqu'il se compte en dizaines de milliers de patients. Ce sont donc des études internationales, avec des études de génomique extrêmement sophistiquées, des moyens très très puissants. Et avec ces études, on a pu mettre en évidence un certain nombre de gènes de susceptibilité. Alors, ces gènes de susceptibilité, pour l'instant, on en a 10. Manifestement, il y en a encore d'autres. Mais avec ces 10, on peut déjà rendre compte de 50% à peu près de la maladie. Donc ça, c'est la première chose. Et alors, vous voyez, l'idée est la suivante, c'est que le jour où on aura identifié les gènes, on va regarder à quoi ils servent, donc des hypothèses physiopathologiques. Une fois qu'on a les hypothèses physiopathologiques, sur quelles cibles interviennent-elles? Et si on a la chance d'isoler les cibles, eh bien, on mettra des médicaments dessus. Donc ça, c'était la première chose, c'est la piste génétique. Alors, parallèlement, il y a une piste génétique qui est aussi tout à fait intéressante, qui est celle de la mémoire. Car des troubles de la mémoire accompagnent, bien évidemment, font partie de la maladie d'Alzheimer, mais il y a aussi des gens qui font des troubles de la mémoire sans maladie d'Alzheimer, fort heureusement. Alors, l'idée, enfin, on sait depuis longtemps qu'il y a eu une origine génétique aux troubles de la mémoire, et un certain nombre de travaux, maintenant, ont permis de caractériser ces gènes. Alors, il y en a deux qui ont été traités de façon tout à fait exhaustive au plan expérimental par les chercheurs canadiens. Il y en a un qui s'appelle la transthyrétine et qui explique que, si vous voulez, la carence en ce gène expliquerait un défaut de transmission au niveau des neurones. Donc, ça serait certainement un facteur aggravant. Et puis, d'autre part, il y a un autre gène qui est de la quinone réductase, qui, elle, est augmentée, qui est certainement un facteur de production de radicaux libres et qui est donc un facteur qui doit aggraver la maladie aussi. Donc, vous voyez, là encore, essayer de dissocier ce qui appartient à la mémoire de ce qui appartient à l'Alzheimer. Et manifestement, on s'aperçoit que les deux problèmes sont liés et que si on pouvait au moins traiter tout l'aspect mémoire, on limiterait quand même l'aggravation de la maladie, enfin, un certain nombre de symptômes de la maladie d'Alzheimer. Alors ça, c'est, si vous voulez, l'aspect génétique qui est spectaculaire et où, bon, très franchement, la France est en avance. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième idée, alors qui est une idée québécoise, fait l'hypothèse d'une altération du métabolisme du cholestérol cérébral. Alors ça, c'est quelque chose aussi d'assez original, dans la mesure où, contrairement aux idées qu'on pourrait avoir a priori, le cholestérol du cerveau a très très peu de contact avec le cholestérol périphérique. Autrement dit, les deux poules ne se mélangent pas, ou très très peu. Donc, cholestérol cérébral a une, si j'ose dire, une vie autonome. Une vie autonome, mais on s'aperçoit que dans la maladie d'Alzheimer, il y a une augmentation considérable du cholestérol libre. En particulier, on en trouve dans les plaques neurales, on en trouve associé à le peptide A-bêta, vous savez, le peptide amyloïde, qui caractérise la maladie d'Alzheimer. Donc, ce cholestérol en excès, manifestement, est pathologique. Et pour un certain nombre d'auteurs, c'est la combinaison. Il y a même des gens qui vont jusqu'à dire que le peptide amyloïde n'est pas toxique, mais que c'est la combinaison cholestérol qui est toxique. D'où l'idée de regarder ce qui se passe dans le métabolisme cérébral du cholestérol. Alors là, ça devient fort intéressant parce que le cholestérol cérébral, il est utilisé pour fabriquer ce qu'on appelle les neurostéroïdes. Et vous voyez arriver là un neurostéroïde que tout le monde connaît, qui est la DHEA, la déhydroépiandrostérone, qui a eu les honneurs de la presse pendant très longtemps et qui est certainement un neurostéroïde très actif. Alors, ce qu'on peut observer, c'est que dans la chaîne métabolique qui va du cholestérol au DHEA, il y a un blocage. Il y a un blocage qui est en fait, on ne sait pas si c'est un blocage ou si c'est une déviation, mais manifestement un des intermédiaires métaboliques entre le cholestérol et la DHEA est complètement diminué. Et il est complètement diminué dans deux structures cérébrales qui sont les plus sensibles, c'est-à-dire l'hippocampe et le cortex pariétal. D'où l'idée de se dire qu'il y a une carence localisée en neurostéroïdes. Alors pourquoi est-ce que ces neurostéroïdes sont intéressants? Eh bien parce que, expérimentalement, on peut montrer que dans le cerveau, ils favorisent la neurogénèse, ça nous intéresse, dans l'évolution des fonctions cognitives, dans la régulation de l'humeur, et même, ils interviennent pour empêcher la constitution des toxicomanies. Autrement dit, vous voyez des rôles multiples pour ces neurostéroïdes. Donc on peut admettre, c'est une hypothèse qui paraît logique, que si dans l'Alzheimer il y a une carence en neurostéroïdes, eh bien on aura les effets correspondants, c'est-à-dire des troubles des fonctions cognitives, de la neurogénèse et de la régulation de l'humeur. Et pour les toxicomanies, les choses sont un peu différentes. Donc vous voyez, l'idée, c'est de se dire que s'il y a une altération du métabolisme du cholestérol cérébral, on peut peut-être essayer de compenser en apportant des neurostéroïdes. Le problème, c'est qu'il faut apporter des substances de ce type au niveau du cerveau en quantité suffisante. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des substances ou des précurseurs qui passent la barrière hématoencéphalique, qui ne soient pas trop rapidement éliminés du cerveau, parce que le cerveau se défend, le cerveau élimine un certain nombre de substances, et donc qu'ils soient en concentration suffisante pour être actifs. Ça, c'est certainement une des idées les plus originales. Et alors, parallèlement, il y a une substance qui est dérivée d'une substance naturelle, dérivée d'une plante, qui traditionnellement est utilisée pour les troubles de la mémoire, mais bon, rien n'est prouvé puisque c'est ancestral, si ce n'est que cette plante, elle ne doit pas être toxique. Et cette plante, donc, qui est utilisée dans les troubles de la mémoire, contient une substance qui protégerait le métabolite intermédiaire entre le cholestérol et les neurostéroïdes dont je vous ai parlé. Autrement dit, il fixerait par exemple le peptide A-bêta et il permettrait à la chaîne de progresser. C'est l'idée la plus originale que nous ayons eue au cours de ces journées.
Lors de ces rencontres scientifiques et médicales France-Québec, vous avez aussi voulu apporter une grande importance aux accompagnants des malades de la maladie d'Alzheimer. Et ça fait aussi partie des priorités du plan Alzheimer lancé par Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'il y a le malade, mais il y a aussi tous les gens qui sont autour. Et à ce sujet, plusieurs structures vont être mises en place, plusieurs projets sont là pour les accompagner.
Oui, je crois, si vous voulez, d'abord que c'est la vocation de l'Académie de médecine de ne pas se cantonner aux aspects purement scientifiques et médicaux, mais de voir tous les aspects qui entourent une maladie comme celle-ci, sachant que cette maladie a quand même une caractéristique très particulière, c'est que si les patients souffrent, les aidants et l'entourage souffrent encore plus. Donc c'est une maladie où la prise en charge ne doit pas être du seul patient, mais elle doit être aussi de tous ceux qui les aiment, de tous ceux qui les aident et qui les soignent, et puis bien sûr de la société par le coût que ça représente. Donc si vous voulez, c'est un problème maintenant essentiel de savoir comment prendre en charge ces patients.
Jean-Paul Tillemant, il y a aussi dans ce plan Alzheimer 2008-2012 la mise en place, par exemple, des consultations mémoire qui vont permettre de diagnostiquer et dépister la maladie ou bien de confirmer que telle ou telle personne n'a pas la maladie d'Alzheimer. Mais il y a aussi la mise en place de ce qu'on appelle les maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades Alzheimer. Est-ce que cette mise en place des MAIA, comme on les appelle, peut justement permettre de ne pas tomber dans le désespoir ou dans la surcommunication?
Si vous voulez, je crois qu'il y a deux choses. Ça, c'est l'action des pouvoirs publics, aussi bien d'ailleurs à Québec qu'en France, mais ça se développe beaucoup en France. C'est d'avoir des maisons tout à fait spécialisées pour l'accueil de ces patients, sachant que pour que l'accueil de ces patients soit un accueil efficace, il y a une formation. Il y a une formation nécessaire des personnels de santé. Et une des idées communes de la Réunion, c'est de penser qu'on pourrait réfléchir à une formation des personnels de santé qui soit la même des deux côtés de l'Atlantique et qui nous permette donc d'aller, disons, dans le bon sens. Vous voyez, je pense que ces maisons, c'est la suite logique de ce qui était bien expliqué et ce qui se développe bien à l'heure actuelle. Ce sont des diagnostics de plus en plus précis et de plus en plus précoces. Si vous voulez, au départ, le diagnostic, il était ou post-mortem ou purement clinique. Alors la première idée, c'est de dire que le diagnostic est forcément clinique, c'est l'amnésie de type hippocampique, mais il faut autre chose pour préciser ce diagnostic. Et alors, cette autre chose, ça peut être un critère biologique. Alors, le critère biologique, il est très très simple. Vous savez que dans la maladie d'Alzheimer, il y a deux protéines anormales, protéine tau polyphosphorylée et puis d'autre part les peptides A-bêta. Eh bien, ça consiste à rechercher ces deux protéines anormales, d'abord dans le liquide céphalorachidien, et maintenant, on a des tests qui commencent à venir au niveau du plasma, c'est-à-dire beaucoup plus facilement, puisque ce serait à partir d'une prise de sang. L'équipe qui s'occupe du cholestérol cérébral a trouvé aussi une autre chose qui est tout à fait curieuse, qui n'a pas d'explication à l'heure actuelle, c'est une observation. Quand on prend le plasma d'un sujet sain et qu'on le soumet à un traitement oxydant assez drastique, on fabrique de la DHEA chez un sujet sain. Chez un sujet qui a une maladie d'Alzheimer, dans les mêmes conditions, on fabrique très très peu de DHEA, quelquefois on ne la fabrique pas, mais la diminution de synthèse de DHEA est parallèle à la gravité des signes de l'Alzheimer. Donc là encore, il y aurait une possibilité d'un diagnostic biologique, en plus très simple puisque c'est sur du plasma. Alors à côté de ça, vous avez les diagnostics classiques qui sont les diagnostics psychologiques. Et là, vous parliez de mémoire. Sylvie Belleville a fait un superbe travail pour montrer que dans les deux types de mémoire, mémoire épisodique et mémoire de travail, on peut distinguer des sous-groupes de mémoire qui vont évoquer ou non la possibilité d'une évolution vers la maladie d'Alzheimer, autrement dit un diagnostic relativement précoce. Et alors, elle va beaucoup plus loin, c'est qu'elle propose des exercices mémoire, justement pour essayer de faire travailler la mémoire de ces sujets de manière à ralentir l'évolution de la maladie. Alors ça, c'est intéressant, mais vous voyez là encore...
Ce sont les mementos ?
Oui, mais alors, si vous voulez, là encore, il y a une chose qui est à bien comprendre, c'est que cette information-là, à l'heure actuelle, c'est une information qui est statistique, épidémiologique. Elle s'applique difficilement à l'individu. Autrement dit, voilà une information qui est tout à fait intéressante, de la possibilité de dissocier les formes de mémoire et les altérations de la mémoire qui peuvent signifier la maladie d'Alzheimer, mais on l'a fait sur un grand nombre de patients et pour l'instant, le passage au diagnostic individuel n'est pas fait. Autrement dit, voilà une information, mais qui ne peut pas s'appliquer directement au patient. Donc je crois que le rôle des médias, le rôle d'explication, je crois qu'il y a un rôle d'explication qui est très très important. Parallèlement d'ailleurs, ce rôle d'explication, il est qu'il faut bien expliquer aux malades. Il faut qu'ils participent à la recherche, ce qui n'est pas toujours évident, d'autant plus qu'on peut penser que le bénéfice que le malade va tirer de cette recherche sera moindre que celui de la communauté. Donc là encore, un effort d'explication. Mais j'ai encore d'autres diagnostics à vous proposer. Il y a le diagnostic d'imagerie médicale, où on voit des altérations du volume de l'hippocampe, du métabolisme de l'hippocampe, du cortex pariétal. Donc ça, ce sont de superbes travaux, là encore, dans des centres hyper spécialisés, mais des choses qui permettent de faire un diagnostic précoce et in situ, donc avec des marqueurs, par exemple radioactifs, la possibilité d'aller marquer les plaques amyloïdes, donc de voir où elles se déposent et si elles s'accumulent. Le dernier diagnostic qui a été proposé, c'est un diagnostic électroencéphalographique, où des chercheurs québécois aussi ont montré qu'une dissociation, un découplage entre deux types d'ondes électroencéphalographiques, θ et gamma, bon, peu importe, que le découplage est un signe évocateur de la maladie d'Alzheimer. Donc vous voyez, voilà quatre façons d'affiner un diagnostic clinique et de le préciser. Ça, je crois que c'est la chose la plus importante, c'est que, alors que nous n'avons pas encore de traitement de la maladie, le diagnostic précoce, lui, est possible, et avec un diagnostic précoce, on peut retarder l'évolution.
Jean-Paul Tillemant, ces quatre diagnostics dont vous nous avez fait part peuvent aussi apporter un message à tous les malades ?
Oui, bien sûr. La multiplication de ces diagnostics montre bien qu'à l'heure actuelle, il est possible de faire un diagnostic extrêmement précoce. Et ça, je pense que le message à en tirer, c'est que les patients ou les gens qui pensent avoir eu peut-être un début de maladie d'Alzheimer doivent aller absolument consulter. Les centres diagnostiques sont là pour ça et peuvent les aider. Ils peuvent les aider soit en les rassurant, soit au contraire en leur proposant un traitement précoce. Et vous savez, je pense que ça va plutôt rassurer qu'autre chose, parce que je crois qu'un certain nombre de gens vont sortir de ces consultations avec le sourire en pensant que ce n'est pas parce qu'ils perdent leur clé ou qu'ils ont oublié leur code PIN qu'ils ont une maladie d'Alzheimer.
Bien, merci Jean-Paul Tillemant. Alors d'autres pays comme l'Angleterre, l'Écosse ou encore l'Australie ont eux aussi mis en place des plans Alzheimer. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, d'autres conventions comme celle que l'Académie nationale de médecine a signée avec le Québec pourront être élaborées ?
Oh, bien évidemment, je pense que le problème est un problème mondial. C'est un problème qui frappe pratiquement tous les pays. Pour l'instant, si vous voulez, l'idée est que pour faire face à la maladie, il était plus simple de trouver des mesures qui soient compatibles avec nos systèmes de protection sociale. Et nos systèmes de protection sociale, québécois et français, sont quand même relativement proches. Si vous voulez, aux États-Unis, bien évidemment, aux États-Unis d'Amérique, on travaille beaucoup aussi sur ces problèmes, mais la protection sociale est complètement différente de la nôtre. Donc, on apparaît au plus pressé, en quelque sorte. Mais je suis tout à fait persuadé que c'est un problème mondial et un problème qui sera traité globalement.
Eh bien, merci Jean-Paul Tillemant de nous avoir fait part de ces progrès scientifiques récents et des nouvelles perspectives médicales pour la maladie d'Alzheimer. Je vous souhaite beaucoup d'autres conventions signées à l'avenir et peut-être une nouvelle rencontre sur le thème de la maladie d'Alzheimer avec d'autres chercheurs internationaux. Merci à vous.
Bien, merci et bien volontiers. Lorsque nous aurons de nouvelles conventions, je viendrai vous en parler.
Merci.